À la fin des années 1900, l'écrivain symboliste Gustave Kahn présentait les célèbres tableaux de danseuses d'Edgar Degas comme le corollaire d'un monde théâtral en plein renouvellement technique. Je le cite, « Ce qui avait rendu possible cet art, qui semble parfois une heureuse capture d'étincellement, il parle de la peinture, c'est évidemment le progrès de l'éclairage, en même temps que le luxe plus grand de la mise en scène au théâtre. » Fin de citation. S'ouvrant largement aux productions artificielles de la machinerie, le musical et sa figure emblématique, Loy Fuller, ont plus particulièrement influencé les réflexions artistiques menées dans les autres disciplines du spectacle, comme en peinture, en poésie ou en cinéma. Si l'attirance des artistes et des intellectuels pour l'esthétique du musical est reconnue, on est encore loin d'avoir repéré, dans le chaos redoutable des attractions éphémères de l'Olympia, des Folies Bergères, du Casino de Paris, de l'Alhambra, toutes les techniques qui ont suscité leur intérêt et orienté leurs recherches. Ces liens avec les intellectuels et les artistes ne sont toutefois que l'un des aspects qu'il nous faut prendre en compte pour préciser le rôle du musical dans la vie culturelle parisienne. Participant de la reconsidération du spectaculaire et des travaux sur les phénomènes d'intermédialité, notre recherche sur le musical et ses rapports avec la métropole vise aussi à questionner la notion de spectacle populaire, dont Patrick Désy l'a rappelé qu'elle peut occulter des aspects paradoxaux, mais néanmoins fondamentaux de la culture du tournant du siècle. Alors, relevons pour commencer certains de ces paradoxes du musical qui apparaissent d'emblée lorsque l'on se penche sur l'histoire d'une salle comme l'Olympia, par exemple. D'abord, les affinités d'hommes de lettres avec les spectacles d'attraction se traduisent par des collaborations artistiques dans ce domaine. Sur la scène de l'Olympia, en 1896, le spectacle pouvait ainsi commencer à 8h45 avec Miss Valenda, je cite, « l'impératrice de toutes les charmeuses de Cacatoès ». Puis se poursuivre à 10h avec Rêve de Noël, une pantomime de Jean Laurin. Ensuite, l'essor de la revue à grand spectacle prolonge la tradition d'une production scénique en prise avec son contexte socioculturel. Puisque l'exploration des techniques de machinerie reste associée à un commentaire critique de l'actualité, ne serait-ce que sur un mode burlesque. Dans une revue de 1905, le compère et la commère arrivent sur la scène de l'Olympia en automobile pour évoquer la course Gordon-Bennett. Enfin, les aristocrates font bon ménage avec les prostituées qu'ils côtoient, de près ou de loin, dans l'espace du musical. On peut d'ailleurs très bien être artiste de scène, tout en se livrant à la galanterie, comme en témoigne un rapport de mœurs de 1904 sur les relations des frères Émile et Vincent Isola. Donc je vous cite un extrait. La nommée Richère Augusta, dite Delbar, a commencé à se livrer à la galanterie alors qu'elle n'avait que 15 ans et eut plusieurs amants, parmi lesquels on signale l'un des frères Isola, qui la fit débuter à l'Olympia, où elle fait partie de la troupe depuis 6 ou 7 ans. Outre qu'il nous permet de mieux saisir les processus de création des spectacles et les logiques de juxtaposition des numéros, le retour au programme, au texte et aux notes de la censure nous pousse à considérer plus largement les ouvertures du Music Hall sur l'espace urbain. En interrogeant cette connexion du Music Hall avec la ville, à un moment où le rapport des citadins au temps et à l'espace changeait radicalement, nous souhaitons surtout rendre ici visibles les réactions ambivalentes des auteurs de revues à l'égard d'une mécanisation de grande ampleur qui concerne aussi bien la rue que la scène, mais dont on ne pouvait pas encore prévoir toutes les conséquences, bonnes ou mauvaises. En effet, les chansonniers s'imprègnent des changements techniques rapides qui affectent la vie urbaine quotidienne au tournant du siècle, notamment avec l'apparition du téléphone, de l'automobile et de l'éclairage électrique. Leurs œuvres reflètent ainsi des inquiétudes qu'éprouvent les spectateurs face à la modernisation de la ville, tout comme les espoirs qu'ils placent simultanément en elle. Nous verrons ainsi que les appareils d'enregistrement sont à la fois célébrés et décriés par des auteurs qui entrevoient déjà des aspects intrusifs et oppressants de la captation d'images. Nous articulerons en même temps notre réflexion avec le regard des écrivains sur le monde du spectacle, parce qu'ils ont su faire apparaître, dans leurs considérations sur l'époque ou à travers leur démarche artistique, les liens du théâtre avec les machines, l'industrie et les transformations de l'environnement urbain. Première partie, attraction, mécanisation des salles et transformation de la ville. Si des expériences publiques de physique amusantes perdurent dans la sphère du Music Hall, les relations entre science et spectacle y sont davantage marquées par la mécanisation des salles, nouvellement construites ou transformées. Pour exprimer clairement le lien fusionnel entre technologie et architecture dans l'espace du Music Hall, empruntons à la littérature symboliste, et plus précisément à une nouvelle de Villiers de l'Isle-Adam, l'image d'un théâtre ne faisant plus qu'un avec la machinerie électrique. Je cite « À proprement parler, la machine c'est la salle elle-même. Elle y est adaptée, elle en fait partie constitutive. » Fin de citation. Nous devons d'ailleurs convenir avec François Albera que les dispositifs imaginaires rencontrés dans les œuvres littéraires du tournant du siècle relèvent, je cite, d'extrapolations qui nous aident à mieux comprendre des appareils déjà existants ou en voie de développement à partir desquels ces extrapolations sont lancées. Lorsque les music halls apparaissent à Paris dans le tournant du XXe siècle, l'omniprésence des machines dans les lieux de divertissement amène ainsi les chroniqueurs à prolonger fictivement l'évolution des spectacles. Je cite « Les artistes, bientôt, ne paraîtront même plus. Ils expédieront de chez eux leur salade par fil spécial qui le transmettra à un appareil placé sur la scène et qui, en qualité de mécanique bien réglée, ne pourra jamais chanter faux. » Fin de citation. En fait, ces réflexions anticipatrices d'un journaliste sont à mettre en relation avec l'exploitation dans les théâtres et les music halls de plusieurs systèmes électriques. On peut penser dans ce cas au théâtrophone. Des systèmes forçant à concevoir le spectacle en termes de médiation technique et de reproduction de la performance humaine. Il faut toutefois examiner les entours de la représentation pour saisir les processus qui sous-tendent cette logique de modernisation des salles. En se penchant sur les photographies d'artistes de la scène en circulation à l'époque victorienne, en Angleterre et aux États-Unis, l'historien du théâtre David Mayer a réinscrit la production et la commercialisation d'images dans un ensemble de changements techniques qui ont modifié l'économie du théâtre. Mayer a ainsi montré que la reproductibilité mécanisée des images a contribué à impulser un mouvement circulaire dans le système de promotion des spectacles, puisque les portraits d'acteurs affichés dans les vitrines attiraient les spectateurs dans les théâtres, en même temps que les prestations scéniques incitaient le public à faire l'acquisition de photographies. Reprenons ici cette idée de boucle en l'adaptant au contexte des spectacles d'attraction en France. Quand on envisage les fêtes foraines de la fin du siècle, qui ont en fait bien des points communs avec les débuts du music-hall, on ne peut séparer la prolifération des amusements technologiques sur les champs de foire, avec ce qu'elle implique de dépendance économique aux industries de la photographie et du cinématographe, entre autres, des effets de la diffusion de l'information, de la reproduction massive d'images ou du développement du réseau ferroviaire, puisque les attractions circulaient grâce à des trains spéciaux. La dynamique de mécanisation des formes spectaculaires, démultipliant les collaborations avec des techniciens et des industriels, est alors stimulée par des conditions externes qui accentuent la situation concurrentielle des théâtres. Communicabilité des programmations via l'affichage et la presse, reproductibilité des photographies d'artistes. Quand vous êtes artiste de music-hall, il faut envoyer sa photographie pour se faire engager. Mobilité des attractions et des spectateurs qui prennent le train pour aller voir les spectacles. L'introduction des machines dans l'espace du music-hall. Ici, on a un exemple de brevet d'invention avec un système assez compliqué de saut en automobile. L'introduction des machines dans l'espace du music-hall est donc loin de dépendre seulement de préoccupations esthétiques, mais répond plus généralement aux changements socioculturels qui s'opèrent dans un environnement urbain façonné par l'industrialisation. Dans ce contexte, les directeurs de music-hall cherchent notamment à renouveler le spectacle à travers la mécanisation des salles et en particulier avec l'installation d'appareillages électriques. L'idée de salle-machine, imaginée par Villiers de l'Isle-Adam, est ainsi liée au processus d'électrification des théâtres et de transformation des jeux d'orgue. Misant d'emblée sur une union franche entre spectacle et consommation, ces directeurs de salle proposent des numéros construits autour d'appareils dûment brevetés par des inventeurs autodidactes ou des entreprises spécialisées. Affichant ouvertement, cela fait partie du jeu, leur relation commerciale avec des inventeurs ou des fabricants d'appareils. Ils ne craignent pas en cela de mêler aux formes artistiques traditionnelles, dont les valeurs sont étroitement associées à la corporéité de l'artiste, des images, des lumières ou des sons réalisés par l'entremise de machines industrielles. Si l'œil Fuller reste le symbole de cette alliance du music-hall avec l'industrie naissante de l'électricité et la production de masse des usines modernes, Giovanni Lista souligne que l'élaboration de ces danses serpentines s'inscrit alors, je cite, dans le mouvement de cette redéfinition des rapports entre art et industrie que semblait légitimer l'avènement d'une nouvelle et bien plus performante machinerie théâtrale. Fin de citation. En effet, à l'époque où l'œil Fuller triomphe sur les scènes parisiennes, une myriade d'attractions de music-hall explore avec elle les possibilités scénographiques qu'offre cette ouverture sur les recherches et les connaissances techniques du milieu industriel. Deuxième partie, érotisme, ambiguïté du spectacle et versatilité des technologies. Dans son étude sur le mélodrame et ses liens avec la modernité urbaine, l'historien du cinéma Ben Singer précise que l'idée d'une corrélation entre le nouvel environnement sensoriel de la ville et l'évolution des spectacles populaires est déjà partagée par les commentateurs au début du XXe siècle. La production mélodramatique nord-américaine entretient alors un rapport ambivalent à la mécanisation de la ville, dans la mesure où elle s'approprie les techniques les plus récentes, mais décrit par leur entremise une population urbaine en proie à la terreur de l'explosion, de l'écrasement et du déraillement. Ce double mouvement contradictoire d'acceptation et de rejet des technologies se manifeste au même moment en France dans le genre de la revue de musicole. En arrivant dans le domaine du musicole, la revue s'enrichit de nouveaux modes d'expression visuelle de l'actualité grâce à la machinerie de salles neuves ou restaurées. Mais elle hérite aussi de l'esprit gouailleur des chansonniers de café-concert qui restent des observateurs critiques de leur époque. La rencontre entre des auteurs de chansons versés dans la satire et des exploitants de salles en quête de spectaculaire ne va ainsi pas sans certaines contradictions. D'un côté, on expose les conséquences indésirables des transformations de l'espace urbain, en mettant en cause l'accélération des moyens de transport, la prolifération des pratiques publicitaires ou la multiplication des appareils d'enregistrement. Mais en même temps, on se lance dans l'expérimentation d'usages scénographiques de l'électricité, de la projection et des appareils motorisés, au risque de provoquer d'autres effets inattendus et dérangeants des technologies. Le processus d'érotisation des machines auquel prennent part les créateurs de revues rend particulièrement manifeste la connexion du musical avec la ville mécanisée et les réactions ambiguës des citadins face au déploiement de réseaux techniques. La question de l'éclairage public et de l'éclairage électrique des espaces publics en particulier, qui anime régulièrement les séances du conseil municipal de la ville de Paris, est ainsi liée aux différentes mesures adoptées pour la surveillance et la sécurisation des rues de Paris, mais elle suscite simultanément la crainte d'une plus grande décadence. Faisant écho à ces débats, l'auteur de la revue des Folies Bergères, créée à la fin de l'année 1904, évoque l'intrusion de la lumière électrique dans l'espace de la prostitution de plein vent. Je cite un personnage de prostituée. « Où voulez-vous qu'on aille ? Au Champ de Mars, électricité. Au bois, électricité. Ah, je sais pas qui a inventé cette mécanique-là, mais sûrement c'est pas quelqu'un qui aimait l'amour. » Fin de citation. À la dimension moralisante de l'électricité s'oppose l'idée d'une technique licencieuse favorisant le dérèglement des mœurs. Cette idée s'établit notamment avec le développement d'éclairage et de projection électrique dans le domaine des arts de la scène. Comme l'écrit déjà Gustave Kahn en 1901 dans son Esthétique de la rue, l'électricité est devenue, je cite, « lumière de musicole ». L'application des techniques développées par Loy Fuller dans un ballet comme « Bouton d'or » créé à l'Olympia en 1893 a certainement contribué à féminiser et sexualiser la lumière électrique, en la faisant se confondre avec le corps des danseuses. Les auteurs font ainsi apparaître la versatilité des machines en montrant qu'elles se prêtent à de multiples usages, y compris à des pratiques complètement opposées sur le plan idéologique. Le musical a inscrit plus largement les technologies dans le monde festif et érotique des nuits parisiennes. Pour familiariser les spectateurs avec le fonctionnement des automobiles, récemment apparues sur les boulevards, il a ainsi été prévu, en 1904, de faire défiler sur la scène du Moulin Rouge des femmes personnifiant, je cite, « le volant de direction, le moteur, la bougie d'allumage, le carburateur, le trembleur, le cylindre, le changement de vitesse, le frein, le pneu, le phare, la corne, le court-circuit et même la panne. » C'est aussi en perpétuant la tradition de la chanson à double sens que les auteurs sexualisent les machines et les associent à des conduites érotiques ou à des usages transgressifs. Dans le manuscrit d'une revue intitulée « Avouiva » et proposée par l'Étoile Palace en 1905, l'idée d'une femme qui se donne physiquement à la machine semble avoir été explorée sans que les auteurs aient été inquiétés par la censure. je cite. Le personnage s'appelle la buveuse d'air. Ah, être blotti encavé dans la voiture qui vole sur la route, se sentir soulevé, pressé, enveloppé par l'air brutal qui vous caresse toutes. La voilà l'émotion qui fait vivre, l'émotion qui fait mourir. Et puis il y a une chanson qui suit autour de l'extase que provoque la course automobile. Le rapport troublant du corps à la technologie est exacerbé dans des numéros qui cherchent délibérément à entremêler le vivant et le mécanique. Je cite « Femme sublimée en clarté, avec électricité » ou, autre citation, « Complète fusion de l'image avec la réalité, grâce au cinématographe ». C'est dans la revue des Folies Bergères, au moment où le cinématographe s'éteint, la projection, on passe directement de l'image aux acteurs qui sont placés derrière. Dans les programmes de la revue Paris qui chante, lancée à l'Olympia en 1903, on annonce aussi un numéro de la Motogirl, célèbre poupée électrique, prévenant d'emblée par ses mots le public du caractère équivoque du spectacle. Il s'agit en effet pour les spectateurs de discerner la vraie nature de la Motogirl. Je cite « Curieuse bonne femme, à la tête de porcelaine, aux yeux d'émail, aux membres de bois, et qui donne l'absolue illusion d'un automate », selon les termes d'Adolphe Brisson dans Le Temps. Troisième partie, technophobie, image accusatrice et usage choquant du cinématographe. Si l'installation de l'éclairage électrique public est présentée comme une perturbation de l'activité nocturne des Parisiens, et notamment des comportements érotiques, la reproduction massive d'images, la vulgarisation de la photographie instantanée et la multiplication des prises de vue cinématographiques en plein air prennent, dans les revues de musicals, la forme d'une menace grandissante pour la vie privée, avec ses plaisirs secrets, ses liaisons adultères et ses relations monnayées. En réfléchissant au dispositif imaginaire qu'Albert Robida décrit dans son roman Le XXe siècle, publié en 1883, Alain Boyat rappelle que le téléphone avait aussi paradoxalement représenté, dès son apparition dans les foyers, autant de nouvelles possibilités de protection de l'espace domestique que d'ouverture insondable sur un monde extérieur inquiétant. Face à l'essor des pratiques de l'excursion photographique et du tournage de films en plein air, poète, chansonnier et caricaturiste adopte la même attitude de méfiance à l'égard des technologies, en contribuant à faire apparaître le potentiel coercitif des appareils d'enregistrement. Si nous reprenons les travaux de Benjamin sur Baudelaire, nous voyons que les idées de surveillance, de punition et de restriction des espaces d'intimité sont associées à des images qui ne sont pas seulement observées du point de vue du badaud, mais aussi analysées selon le mode spectatoriel du détective amateur. Dans un récit comme Révélation, publié par le supplément illustré de La Lanterne en 1902, un flâneur des boulevards est d'abord emporté par l'élan collectif du public, du cinématographe, avant de s'en détacher pour scruter les images de la foule dans une vue d'actualité. Il identifie alors formellement sur l'écran sa femme Ernestine au bras d'un homme qui l'entraîne dans un hôtel à l'arrière-plan. La dimension accusatrice du dispositif cinématographique sera notamment renforcée par une intrigue policière dans le vaudeville Le Millième Constat aux Folies Dramatiques. Cette crainte de l'apparition de nouvelles formes techniques de surveillance est à mettre en relation avec les usages trompeurs, immoraux ou malhonnêtes des appareils de prise de vue qui se développent à cette époque. Lorsque Guillaume Apollinaire imagine, dans un texte ironiquement intitulé « Un beau film », publié en 1907, une compagnie cinématographique spécialisée dans la violation de l'intimité et allant jusqu'à organiser l'assassinat d'un couple pour obtenir le film, je cite, d'un crime sensationnel. Elle prolonge en fait les visions inquiètes d'une société qui s'interroge sur la généralisation des appareils d'enregistrement. Bien que le musical mise sur les beautés sulfureuses et parfois dangereuses de la rencontre entre la chair et les machines, les préoccupations morales suscitées par la production et la commercialisation des films y transparaissent clairement. Dans la revue « Il y a des surprises », créée à Parisiana en octobre 1902, les auteurs se moquent ouvertement du docteur Doyen. Son nom y est à peine voilé. En critiquant la dimension tapageuse de ses activités. La scène a été conçue par les revuistes peu de temps après l'opération chirurgicale polémique de jeunes sœurs siamoises. Une opération qui avait été enregistrée par le cinématographe. Des rumeurs avaient circulé autour de l'usage des images ainsi obtenues. Hésitant entre les objectifs documentaires et pédagogiques de la sphère scientifique, auquel appartient le docteur Doyen, et puis les visées mercantiles du monde du cirque, auxquelles appartenaient les deux jeunes sœurs siamoises. Elles étaient exhibées en fait dans le cirque Barnum. Or, la mise en scène de cette partie de la revue « Il y a des surprises » est construite précisément autour de la projection d'un film qui désamorce par le rire l'idée choquante d'une exploitation commerciale des images de l'opération du docteur Doyen. Le manuscrit de la censure témoigne aussi de l'orientation du genre de la revue vers une évocation spectaculaire de l'actualité, puisqu'il fait référence au trucage burlesque du film et aux bruits produits par l'orchestre qui viennent les accentuer. Vue cinématographique, récit coupé à coups de grosses caisses et de cymbales. C'est le docteur Doyen qui parle. Voici d'abord monsieur sur la table d'opération. Comment l'endormons-nous ? Boum ! Chloroforme ou cocaïne ? Zimboum ! Ni l'un ni l'autre. Je n'endors pas, moi, je coupe. Bruit de scie à l'orchestre. Et là, en même temps, on a donc le trucage avec le film. Le siège de la sensation étant dans la tête, je supprime la tête, crac, plus de douleur. Le patient gesticule, voilà des bras et des jambes bien gênants pour réussir une opération, débarrassons-nous. À la bonne heure, on y voit clair, voilà une pécodicite qui ne résistera pas à mon excellent bistouri. Le meilleur bistouri est le bistouri moyen, la maison ne fait pas de réclame. Et maintenant, ouvrons le tronc. Fin de citation. Malgré le doute jeté sur les intentions du docteur Doyen, qui d'ailleurs intentera plus tard un procès à des entreprises de cinématographes, les créateurs de la revue de Parisiana ont eu aussi recours au cinématographe, mais le film, accompagné d'un commentaire ironique, donne au spectacle une fonction réflexive en caricaturant des pratiques considérées comme déshonorantes. Cette réflexion critique sur la captation et la projection de films n'est pas isolée dans les revues de musical. Elle doit au contraire être mise en relation avec d'autres formes scéniques de satire des usages du cinématographe dans le tournant du siècle. En 1904, les auteurs de revues contribuent ainsi à faire la lumière sur les conditions de tournage des films à Paris ou en banlieue, et plus spécialement sur les méthodes de reconstitution des événements d'actualité qu'on assimile parfois à l'époque, à une forme condamnable de trucage. Alors notons que la notion de trucage est étroitement associée à cette époque à des pratiques sociales jugées immorales, voire tombant sous le coup de la loi. La truqueuse, c'était alors la prostituée, comme le rappelle un poème de Jean Lorrain, dépeignant les ombres errantes du bois de Boulogne en 1896. Dans une scène de la revue « Il y a du linge », jouait la cigale, à partir du mois d'octobre 1904, un personnage d'ouvrier relate sa rencontre avec, je cite, « un entrepreneur de vue cinématographique de la guerre russo-japonaise pour musicals et grands magasins ». La scène repose sur le contraste comique entre le registre familier des répliques de l'ouvrier et le costume de chef de guerre dont il est affublé. Mais ces explications permettent aussi de lever les ambiguïtés du spectacle cinématographique, ce qui est clairement résumé dans une chanson. Je cite un couplet. Chaque jour au fortif, je pose devant les objectifs. En grand chef du Japon, je distribue des coups de tampon. Le soir au music-hall, je regarde en me poussant du col mon image qui galope, projetée par le bioscope. Au terme de ce premier examen des revues de music-hall, on comprend bien donc que les spectacles expriment, dans leur utilisation des technologies, comme dans leurs allusions aux usages récents des machines, les attentes et les inquiétudes des citadins. Cela dit, la confrontation des corps avec la mécanique est aussi traduite de façon plus directe et plus violente par des numéros qui reconstituent les conditions de l'accident. Écrasés vivants, flèches humaines, hommes canons, etc. En outre, le cinématographe prolonge cette expression du doute qui surgit face à la mécanisation de la ville. Arrivée de trains en gare, vue d'actualité des courses automobiles, ou scènes à trucs avec écrasement et démembrement. On le voit, de nouvelles recherches sur le music-hall réservent au moins autant de surprises que les technologies en réservaient aux spectateurs du début du XXe siècle. Merci beaucoup.